Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, nos débats de Punchline, mais tout de suite le journal de 19h avec Hélène Zellani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
On va se bousculer dans les gares cet été face à une demande record. La SNCF met en vente 500 000 places supplémentaires.
Peut-être une journée historique pour l'Ukraine. À Bruxelles, les 27 devraient lui accorder le statut de candidat à l'Union européenne, ce qui n'est pas du goût d'autres candidats des Balkans. Dans ce journal, Elisabeth Borne, très critiquée, tente de reprendre la main. L'épidémie de Covid qui rebondit, le lobby des armes américains qui crie victoire, et puis un anniversaire, ça se fête. 50 ans pour Zidane.
La tendance météo avec Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Alors la carte de vigilance émise par Météo France a été mise à jour il y a une demi-heure. Alerte orange en cours dans 26 départements. Orages parfois violents qui vont concerner encore le quart nord-est, le Tarn et l'Aveyron ce soir. Et puis demain matin, un nouvel épisode orageux attendu d'abord en Ardèche et dans la Drôme, puis un petit peu plus tard en Isère et en Savoie. Et je vous donne des précisions à la fin du journal.
Europe 1. Vous faites peut-être partie de ces nombreux Français déçus, voire en colère, de ne pas avoir trouvé de place de train pour partir en vacances cet été. Bonne nouvelle, rassurez-vous, la SNCF propose de nouveaux billets à la vente.
Oui, il faut dire qu'un été record s'annonce dans les gares. 8 millions de billets ont déjà été vendus pour juillet-août, Maud Descamps. C'est 10% de plus qu'en 2019.
Oui, car avec la hausse du prix du carburant, les Français sont plus nombreux à se tourner vers le train pour se déplacer cet été. Tous les trains sont complets pour les jours de grand départ. Et ce matin, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a annoncé 500 000 places supplémentaires mises en vente.
On rajoute des rames, on fait des compositions doubles, on met deux rames à la fois. C'est grâce à ça qu'on va faire tourner 500 000 places supplémentaires. Je veux saluer la mobilisation des cheminots parce qu'eux vont travailler. Pendant que les Français seront en vacances, on est au maximum, et je le redis, il y a des places disponibles.
La SNCF n'est pas la seule à mettre les bouchées doubles pour permettre aux Français de partir cet été. Air France, par exemple, s'attend à accueillir 110 000 passagers par jour à Roissy-Charles de Gaulle. C'est la totalité de la flotte de la compagnie qui est mobilisée pour assurer le programme de vol. Près de 250 appareils qui vont desservir 196 destinations. Air France qui a également renforcé ses effectifs avec l'embauche de 300 pilotes et 200 mécaniciens supplémentaires, mais aussi 200 agents d'escale saisonniers à Paris-Charles de Gaulle et à Orly. Mais attention, de nombreuses compagnies rencontrent des problèmes de main-d'œuvre et de nombreux vols risquent d'être annulés cet été.
Et d'ailleurs, Maud, ce soir, la compagnie Lufthansa annonce la suppression de plus de 3000 vols cet été, notamment à cause du manque de personnel.
Lui a pris l'avion pour rejoindre Bruxelles. Emmanuel Macron participe au Conseil européen.
Au lendemain de son allocution, suivi par 15,5 millions de Français, le président se consacre donc à l'actualité internationale. Arthur Delaborde, vous êtes à Bruxelles, à l'ordre du jour des 27, le statut de candidat à l'Union pour l'Ukraine.
Oui, après s'être longtemps divisé sur la question, sauf énorme surprise, dans les prochaines heures, les 27 vont bien accorder à l'Ukraine le statut de candidat pour intégrer l'Union européenne. Cette décision sera surtout symbolique. Il s'agit d'envoyer un message politique au pays, de lui dire qu'il fait pleinement partie de la famille européenne. Néanmoins, en réalité, la procédure d'adhésion est très longue. Elle peut prendre de nombreuses années. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a participé ce matin à une réunion avec les dirigeants des Balkans occidentaux, notamment ceux de deux pays eux aussi candidats à l'entrée dans l'Union européenne, la Macédoine du Nord qui l'est maintenant depuis 17 ans et l'Albanie qui patiente de son côté depuis 7 ans. Le Premier ministre albanais n'a pas manqué de critiquer la longueur de cette procédure et les multiples blocages auxquels son pays fait face. Il en a profité pour rappeler l'Ukraine à ne pas se faire d'illusions sur ce statut de candidat qui lui sera très probablement accordé ce soir.
Arthur Delaborde à Bruxelles pour Europe 1.
Voilà donc pour cette parenthèse européenne pour Emmanuel Macron dans un contexte d'instabilité politique. Et puis de l'autre, il y a Elisabeth Borne qui veut montrer qu'elle tient la barre.
Oui, la Première ministre était cet après-midi en visite en Île-de-France pour parler énergie. Mais la politique n'était pas bien loin. Le président ne l'a même pas citée hier soir. Elle est critiquée jusque dans sa majorité. Victor Chabert, qu'à cela ne tienne, Elisabeth Borne veut continuer à avancer.
Oui, une visite technique sur un dossier prioritaire au cœur des préoccupations des Français, l'énergie et le pouvoir d'achat, presque comme si de rien n'était. Et dans un second temps, la politique. Elisabeth Borne, chef d'une majorité relative sous le feu des oppositions, a quand même annoncé qu'elle allait échanger avec les présidents de groupes parlementaires.
Je vais échanger aujourd'hui et demain avec les présidents de groupes qui sont désormais élus à l'Assemblée nationale. Moi, je suis confiante. Je pense que dans notre pays, les forces politiques, les députés, même s'ils ne font pas partie de la majorité présidentielle, souhaitent que notre pays puisse continuer à avancer.
Des échanges prévus initialement la semaine prochaine et qui ont lieu finalement aujourd'hui et demain par téléphone. Elisabeth Borne surjoue presque la tranquillité alors qu'au sein même de ses troupes, elle est contestée, notamment par Édouard Philippe et François Bayrou, deux piliers de la majorité. L'objectif de la Première Ministre, suivre la feuille de route fixée par le Président de la République hier soir, sans la citer une seule fois. Elisabeth Borne dit attendre les réponses des différentes formations politiques sur les possibilités de coopération avec le gouvernement et en fonction, elle mettra en place un programme de travail pour quelques mois ou alors ce sera au cas par cas sur les textes. Pour l'instant, les oppositions semblent bien décidées à ne pas lui faciliter la tâche.
Victor Chabert, sur le volet énergétique, Elisabeth Borne confirme que le bouclier tarifaire sur le prix du gaz est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Pour assurer l'approvisionnement en gaz, malgré la baisse des livraisons russes, elle annonce des stocks gaziers à près de 100% au début de l'automne et puis aussi la construction d'un nouveau terminal méthanier flottant dès l'an prochain.
C'est une petite musique qui se fait de plus en plus présente en France. Le Covid est bien de retour.
Et oui, une septième vague avec de plus en plus de cas positifs. Les chiffres du jour sont parlants, Yasmina Katou.
Oui, sur les dernières 24 heures, il y a eu 78 000 tests positifs enregistrés. C'est 50% de plus que jeudi dernier. Des chiffres en hausse depuis plusieurs semaines qui se répercutent maintenant sur l'hôpital. Il y a eu en moyenne 635 hospitalisations chaque jour sur la semaine écoulée. C'est 30% de plus en 7 jours. Cette reprise épidémique est due au variant BA5 qui semble plus contagieux que son cousin BA2. Pour autant, il n'est pas question de nouvelles mesures, assure Brigitte Bourguignon. La ministre de la Santé s'exprimait devant une pharmacie où elle venait de recevoir son second rappel.
Les mesures actuelles suffisent, mais nous surveillons évidemment chaque jour cette situation pour reprendre d'autres mesures s'il fallait et s'il en était besoin. Si vous sentez quand même qu'il y a promiscuité dans les transports notamment, et chacun le sait, il est recommandé fortement de mettre le masque. C'est une protection qui vous est personnelle, mais c'est aussi une protection pour les autres. Donc voilà ce que je recommande aujourd'hui.
Le gouvernement souhaite aussi accélérer la campagne de vaccination des seniors. Sachez qu'entre 8 et 9 millions des 60-79 ans n'ont toujours pas reçu leur second rappel. Toutes les personnes éligibles vont recevoir un mail ou un message sur leur espace Amélie pour leur rappeler d'aller se faire vacciner.
Yasmina Katou.
Allez, une petite pause, Hélène, et puis le lobby des armes américains qui crie victoire en raison d'une décision de la Cour suprême. Nous serons à New York dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve pour la suite du journal de 19h avec Hélène Zelani. Hélène, aux États-Unis, le débat sur le contrôle des armes rebondit aujourd'hui avec la décision très contestée de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays.
Oui, elle annule une législation sur le contrôle du port d'armes dans l'État de New York. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de motifs légitimes pour sortir de chez soi armé. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant à New York. Un mois après la tuerie de l'école d'Uvalde qui a tant choqué les Américains, les défenseurs du port d'armes jubilent.
Oui, la NRA, le plus gros lobby port d'armes des États-Unis, s'est rapidement félicité de cette décision de la Cour suprême. Les 6 juges conservateurs estiment que la loi new-yorkaise va à l'encontre des 2e et 14e amendements de la Constitution. La conclusion est lapidaire. Un citoyen américain n'a pas besoin d'avoir un motif légitime pour porter une arme à l'extérieur de chez soi. Une façon pour la Cour suprême de consacrer le port d'armes hors du domicile et donc du cercle privé. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, parle d'un jour sombre.
C'est choquant, vraiment choquant. Cette décision n'est pas seulement irresponsable, elle est aussi condamnable. Ce n'est pas ce que les New Yorkais veulent.
Alors cet avis est partagé par Joe Biden, puisque le président estime que la décision de la Cour suprême va à l'encontre du bon sens et de la Constitution. Le maire de New York redoute, lui, une vague de violence par arme à feu, car cette loi new-yorkaise qui imposait d'obtenir un permis et donc un motif légitime pour sortir dans la rue avec une arme est l'une des plus strictes des États-Unis et elle est en vigueur depuis le début du XXe siècle et la mégapole a l'un des taux d'homicide par arme à feu les plus faibles du pays. Et puis, il y a tout de même une certaine ironie, car les sénateurs démocrates et républicains sont sur le point de voter en ce moment une loi pour renforcer le contrôle des armes à feu dans un pays, vous l'avez dit, encore traumatisé par les récentes fusillades de masse.
Alexis Guilleux, en direct de New York pour Europe 1.
En France, certains élèves de terminale ne savent toujours pas à quelle sauce ils seront mangés. La phase d'admission complémentaire de Parcoursup a commencé cet après-midi.
Oui, c'est une nouvelle étape importante. Les candidats qui n'ont rien obtenu, Louis Salé, peuvent postuler dans des formations où il y a encore de la place.
Oui, et ils peuvent formuler jusqu'à 10 vœux dans des établissements auxquels ils n'avaient pas postulé lors de la phase principale. Pour faire leur choix, ils ont accès au nom de toutes les formations qui peuvent encore accueillir des étudiants. Mais attention, cette liste s'allonge au fur et à mesure que des places vont se libérer. Des établissements plus appréciés peuvent très bien s'y ajouter plus tard. Il y a même des formations très sélectives qui deviennent accessibles à la fin de l'été. Sophie Laborde-Baleine est conseillère d'orientation au sein du réseau Ton Avenir.
J'invite les élèves à ne pas se positionner sur les 10 vœux en totalité et de les rentrer au fil de l'eau, au fil de l'été. Il faut savoir que beaucoup de choses changent pendant l'été, donc il faut garder espoir. C'est tout à fait possible d'être admis, même dans une formation sélective, à la fin du mois d'août.
Quand un vœu est formulé dans cette phase complémentaire, l'établissement concerné répond dans un délai de 8 jours et cette procédure est accessible aux candidats jusqu'à mi-septembre, tandis que la phase principale de Parcoursup, elle, se termine le 15 juillet.
Louise Salès, spécialiste éducation d'Europe 1.
Un demi-siècle pour une idole française du football, Zinedine Zidane.
But de Zidane ! Oh ! Oh ! Zizou ! Zizou, qu'est-ce que tu nous fais là ?
Ah, cette voix, c'était Eugène Saccomano sur Europe 1, l'un des deux buts de Zidane en finale du Mondial 98. Le footballeur star souffle ses 50 bougies aujourd'hui et pour l'occasion, il accorde un entretien de 18 pages à l'équipe sur l'idée de devenir sélectionneur des Bleus. Il reconnaît avoir envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. Et au tout début de la boucle, il y avait Guy Lacombe. C'est lui qui a découvert Zidane à 17 ans à l'AS Cannes. Souvenir, souvenir.
C'est simplement époustouflant, quoi. La carrière qu'il a pu faire, autant en tant que joueur, bien sûr, mais entraîneur également. Moi, je l'ai à 17 ans au centre de formation, donc il jouait dans cette équipe-là avec des gars beaucoup plus vieux que lui. Il avait des qualités indéniablement importantes. Ben, en fait, ça s'est fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, beaucoup d'amour. C'est un garçon qui aime le football par-dessus tout. Donc, moi, je m'étais aperçu qu'il faisait jouer les autres. Et le jour, on m'a dit, mais vous le voyez entraîneur? C'est vrai que je ne le voyais pas entraîneur. Mais en fait, sur le terrain, il était comme se doit d'être un entraîneur, c'est-à-dire faire jouer l'équipe. Je lui souhaite un merveilleux anniversaire.
Merveilleux anniversaire Zizou, c'est Guy Lacombe qui le dit au micro de Cyril de la Morinerie.
Allez, on va faire un point météo avec vous Marlène Duret. Ce soir et cette nuit, les orages se déplacent vers le nord-est.
Oui absolument Laurence, hein, vers les frontières du nord-est, avec localement de la grêle, des rafales de vent et quelques orages circulent également côté Pyrénées-Atlantiques en direction de l'Aveyron. Et donc une alerte orange est en cours dans de très nombreux départements, dans le Tarn et l'Aveyron, mais aussi le Cher, dans tous ceux de la Bourgogne-Franche-Comté et tout le Grand Est, donc prudence dans ces régions et départements. Et puis demain matin, nouvel épisode orageux qui va débuter en Ardèche et dans la Drôme pour continuer un petit peu plus tard en journée en Isère et en Savoie. Ces départements sont également placés en alerte orange et la carte prendra effet à 10h demain matin et sera valable jusqu'à 16h donc pour ces derniers départements. Et quand on compte au total, ça fait bien 26 départements. Et puis l'après-midi, sur la façade Est, une ambiance qui va rester orageuse. Oui, ça peut gronder et ils vont s'évacuer assez vite. Et de l'autre côté, du côté de la Bretagne, une perturbation pluvieuse va arriver et elle va traverser le pays ce week-end d'ouest en est. Les températures maximales seront en baisse. 18 à 21 degrés en Bretagne. Ailleurs, il fera généralement 22 à 26. 22 à Limoges, par exemple. 24 à Paris. 25 à Strasbourg. Et puis, ça peut monter jusqu'à 26 à 30 degrés dans le sud-est.
Merci beaucoup, Marlène Duret. On suit ça avec attention, avec vous, toute la soirée sur Europe 1. Merci, Hélène Zélani. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On va parler de politique. Comment le discours d'Emmanuel Macron a été reçu mal par les oppositions et pas très bien par les Français. A tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.